un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comme les choses arrivent.
Lui, c'est un des derniers survivants de la French Connection, la filière française, parfois appelée aussi filière corse, qui organise le trafic d'héroïne depuis la France vers les États-Unis, jusque dans les années 70 et même plus tard. Dans le milieu du grand banditisme, on l'appelle Milou. Il a fait un peu de tout, drogue, braquage, fausse monnaie, trafic d'armes, de marchandises. Il a connu les plus grands des truands, enfin plutôt les pires, Francis le Belge, les Guérini, les membres de la Brise de Mai ou le boss de Cosa Nostra. Et maintenant qu'il a 73 ans et qu'il est à la retraite, ils sont nombreux à se précipiter pour entendre avec délice ses récits hauts en couleur sur le milieu du crime organisé. Il a donné des interviews, il a fait un livre avec des tas d'anecdotes piquantes et même un podcast nostalgique en 8 épisodes bourré d'histoires savoureuses et sulfureuses sur la vie des truands à la belle époque. Je dis ça, vous l'aurez compris, avec une légère ironie. Car pendant ce temps, dans l'ombre et même à l'ombre de l'ombre, pendant toutes ces années où il est en prison, en cavale ou rarement en liberté, il y a Nicole. Nicole qui veille, Nicole fidèle et aimante, Nicole qui supporte sans un mot, qui repasse, qui trime, qui fait des ménages, Nicole au parloir, qui n'en demandait pas tant. Tout de suite donc, au lieu d'écouter Milou, on écoute aujourd'hui Nicole au micro de Marine Vlaovic, femme de truand, une vie à l'ombre.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je m'appelle Nicole Chiroud, épouse Diaz. Mon mari s'appelle Émile Diaz, dit Milou. Et d'ailleurs, beaucoup m'appelaient Madame Milou. Ils ne m'appelaient pas mon prénom ou Madame Diaz, on m'appelait Madame Milou. Madame Milou. Je suis née le 8-2-46. Ça me fait 76 ans. Je vais sur mes 77. Et Milou, il a 79 ans. Je suis de famille d'ouvriers. Papa est en VRP et maman a toujours travaillé pour joindre les deux bouts, pour faire bouillir la casserole, comme on dit, et pour les fins de mois, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent à la maison. En grandissant, je connaissais Milou, puisqu'on habitait dans le même bâtiment, moi du côté gauche, lui du côté droit. La Verdière sur le boulevard Michelet, à Marseille. C'était un garçon que je fréquentais pas trop. Pas qu'il avait mauvaise renommée à l'époque, mais c'était le garçon brutal, bagarreur, et moi j'étais la fifille qui jouait à la marelle et à la balle. Donc on n'avait rien en commun. En grandissant, on s'est un peu plus connus. J'avais 16-17 ans. Quand je le fréquentais, il était à l'armée. Dans la marine. Puis après, il s'est mis à naviguer. Et là, on était quand même un peu plus soudés. Donc, il m'a demandé un mariage. Ça paraît un peu amusant comme ça, quand on parle de voyous et d'une demande à mariage. Et il voulait se marier. Quand je annonçais à mes parents que j'allais me marier avec ce garçon, mes parents ne m'ont pas interdit parce que c'était pas leur style. Mais ils m'ont dit, fais attention, parce qu'on entend des bruits sur la famille, on ne sait pas ce que c'est, mais on entend des bruits qui sont pas très nets. Mais après, tu fais comme tu veux, ma fille. Et c'est ce que j'ai fait comme j'ai voulu, je l'ai épousé. Nous nous sommes mariés le 28 août 65. Ben, ça fait un bail, comme on dit chez nous. Et je pense qu'il y avait beaucoup d'amour. Et nous avons fait deux enfants, Françoise et Martine. Il était dans une famille de voyous, les oncles voyous. Donc deux ont été tués, un sur le port et un au panier, dans un règlement de compte. Je pense que ça l'a beaucoup marqué. Et il est sorti de la voie qui s'était tracée en allant à l'école, alors qu'il aurait pu faire quelque chose de bien de sa vie. Et il est parti, malheureusement, sur le chemin de la voyoucratie. Je pense qu'il a commencé très tôt à faire des petits cambriolages, des petites choses. Et des petites choses, après, ça a monté en vieillissant. Et ça a monté d'un cran, Et après, on est arrivé à ce qu'on sait, qu'il fait partie des truands de Marseille, de la French Connection. Et la French Connection, bah, c'était le trafic de drogue, la blanche, quoi, l'héroïne. Qui faisait qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'argent qui rentrait, qui sortait par rapport à la drogue. Puis après, quand il y a eu la première arrestation et que j'ai eu la première perquisition à la maison, et après, tu te retrouves dans un parloir, et là, tu es obligé de te rendre à l'évidence que ton mari a fait des coups tordus. Hein. Voilà, ça commence comme ça. Hein. Et après, ça a continué. Mais il y a eu beaucoup d'absences. Je pense que c'est 16 ans et demi ou quelque chose comme ça, à peu près, de prison, en plusieurs fois. Puisqu'il récidivait, une fois c'était pour les quais, une fois c'était pour la drogue, une fois c'était pour autre chose, une fois... Il y avait toujours matière à faire quelque chose qu'il ne fallait pas, et qui à un moment donné tournait mal, pour qu'il se retrouve encore derrière les barreaux. C'est insupportable. Parce que on a toujours l'impression qu'il va s'arrêter. D'abord, il le promettait. Il y avait un laps de temps où on était un peu tranquille. Et puis, ça repartait. Je lui dis que je comprends pas, que j'étais au courant de rien, qu'il ait fait tout ça dans mon dos comme ça et tout. Nous, les femmes de truands, en principe, nous avons comme les trois petits singes, ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire. Alors, ne rien dire, c'est évident, puisqu'on voyait rien, on n'entendait rien. Tout le monde est innocent et ils promettent toujours de jamais recommencer. Ben, mon mari me disait toujours, c'est terminé, je recommencerai jamais plus, c'est fini, je te promets, je ferai plus rien, je resterai tranquille. Et puis après, quand ils sont dehors, malheureusement, ils recommencent. Et c'est pour ça qu'il est rentré plusieurs fois et il tenait toujours le même discours. Et moi, je pense que j'étais une grosse naïve. Mais je l'aimais, je sentais qu'il m'aimait aussi. Hein. Voilà, alors donc j'ai essayé de mener ma barque tant bien que mal, malgré les mensonges qu'il pouvait me raconter. Parce que je pense qu'il a dû en dire pas mal. Bon, certains que j'ai découverts et certains que sûrement je n'ai jamais su. Mais des mensonges, j'ai dû en avoir. Tu as quand même les parloirs, il faut y aller hein, toutes les semaines. Hein. Je crois que le premier parloir se faisait au midi et demi. Et j'arrivais vers les 8 heures à la prison. Donc, on faisait la queue devant la porte des Baumettes, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grêle, qu'il fasse n'importe quel temps, ou qu'il, même qu'il fasse chaud. Il n'y a pas d'abri, il n'y a rien du tout. On est contre le mur de la prison, on a la queue leu-leu, là. Et on attend à midi qu'on nous donne les tickets et un numéro. Et comme devant, je me retrouvais toujours avec des gens que je ne connaissais pas, qui était dans la même histoire que Milou, je me retrouvais à des parloirs et je sortais à 19h ou 18h30 parce qu'on me décalait pour pas qu'eux se rencontrent. J'étais en contact, bien ou mal, avec des épouses quand il y a eu les parloirs. Parce qu'à force d'entendre les noms et de parler quand on faisait la queue pendant des heures... On en a fini par déduire les unes aux autres qu'on était dans la même affaire. C'est ce qui fait que même si dedans ils voulaient pas qu'ils se voient, Eux, ils se faisaient des commissions et nous, ils nous les répétaient pour que nous, on puisse discuter entre nous si on avait quelque chose à dire. Alors, ce qui était un peu ridicule, des trucs bénins, des trucs de minots. Va voir Pierre, tu lui dis ça, va voir Paul, tu lui dis ça. Va lui dire que ça se passe bien, que je suis en prison avec un tel, qu'un tel lui dit le bonjour, voilà, ce genre de trucs, quoi. Ça me gênait pas. Si ça pouvait lui faire plaisir qu'un tel il ait le bonjour, c'était pas bien grave. Si c'était que ça, c'était pas grave. C'est malheureusement, il y avait tout le reste. Mais sur les choses comme ça, j'allais pas m'y arrêter. C'est pas mon style. On prenait un linge qui était vraiment sale. Et j'y portais son linge propre, parfumé, bien entendu, avec un peu d'eau de Cologne. Comme il allait le mettre dans un endroit que j'ai compris où il y avait de la saleté, il y avait des morpions au baumette. Et ma plus jeune en a attrapé. Et je l'ai vue un matin, elle les avait sur les cils. Je te dis pas ma colère. Désinfecter tout l'appartement avec de la poudre, avec tout ce que je pouvais, et lui dire à lui de faire attention, hein, voilà. Ah ouais, elle rentre chez nous, hein. La prison, elle rentre chez toi. Quand tu sors du parloir, c'est terrible. Que tu vois la petite porte qui se referme, après, d'abord t'entends les grosses portes, après t'entends la petite porte, tu te dis jamais elle s'ouvrira dans l'autre sens, c'est pas possible. T'as l'impression que tu vas passer ta vie comme ça. L'attente, c'est quelque chose qui double les heures de ta vie. C'est-à-dire, en temps normal, tu passes une heure quand il était là. Quand tu es seul, une heure te paraît deux heures. C'est très, très long. Toi, tu essayes de rentrer un peu dans la prison par ta présence dans les parloirs, par ton linge parfumé, par les mandats que j'ai envoyés. J'avais pas de sous. À l'époque, tu encaissais les allocations familiales. Je prenais les 300 francs que j'encaissais et que je mettais sur son compte pour qu'il puisse cantiner. C'est tout ce que je pouvais faire pour lui. Voilà. Et c'était beaucoup pour moi. Parce que c'était un gros manque. C'est un gros manque, mais je le faisais avec mon cœur et je trouvais que c'était normal. C'est toujours comme ça que ça se passe. Quand ils rentrent en prison, vous vous retrouvez avec les enfants, sans argent, et après il faut se débrouiller avec ça. Eh bien, on cherche des petits boulots, hein. On fait du ménage, on fait des petits boulots à droite et à gauche, pour pouvoir faire bouillir la marmite. Et il fallait bien que les petites elles puissent manger à leur faim. Je me suis toujours retrouvée sans argent, hein. Moi, j'ai toujours habité dans des HLM. J'ai souvent passé ma vie avec un jean, un pull l'hiver et un t-shirt l'été. C'était pas brillant. Il y a eu des fois, il y avait un peu d'argent. On se permettait un restaurant ou un truc comme ça. Mais ça, c'est rien d'extraordinaire. Je suis pas quelqu'un de compliqué, hein. C'est d'ailleurs ce qui facilitait la vie de Milou. Parce que si j'avais été quelqu'un de compliqué, me mettre en colère ou être violente, ou ça, je ne savais pas faire. Voilà. Moi, à partir du moment que je le voyais qu'il était là, c'est bon, les étoiles brillaient, quoi. C'est un peu idiot à dire. Mais j'étais jeune et c'est comme ça que je voyais les choses.
France Culture, les pieds sur terre.
Je ne veux pas être une femme de truand. Pour mon compte personnel, je m'en serais passée, largement. Ce que j'ai jamais compris, c'est que les autres femmes, elles t'envient d'être une femme de truand. Même à te dire, oh là là, moi, qu'est-ce que j'aurais aimé être mariée avec un truand. Elles ne se rendaient pas compte de la souffrance qu'il peut y avoir derrière. Elles pensaient que c'était honorifique. Mais je leur disais, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que ça amène derrière comme souffrance pour une maman et des enfants. Et ah non, être la femme d'un truand, ça paraissait glorieux. Les femmes t'envient et les hommes, en étant la femme de Milou, me considéraient comme si j'étais la Vénus de Milou. D'un côté comme de l'autre, c'était un honneur. Jamais compris. On vit beaucoup de moments difficiles. Je me souviens, à une certaine époque, il y avait des problèmes entre les Marseillais et les Lyonnais. Il y avait beaucoup de gens qui se faisaient tuer par des gens qui étaient en moto. Celui qui était tué était dans la voiture. C'était devenu à la mode. Comme il y avait ces quiproquos que j'ignore complètement, mais je savais qu'il y avait un truc entre les Lyonnais et les Marseillais, et que tu es avec, en voiture avec ton mari, et les deux petites, et que ton mari, chaque fois qu'il t'entendait le bruit d'une moto, te dit « baissez-vous », je te jure qu'à un moment donné, tu en as un peu marre. Tu en as un peu marre. Tu as peur et tu en as un peu marre. Tu penses qu'effectivement, ça ne peut plus durer comme ça. Qu'il faut que tu retournes à une vie normale, qu'avec un mari qui soit normal, qui se lève le matin, qu'il aille travailler, qui te ramène un salaire. Quand tu connais un Milou, c'est pas possible, c'est mission impossible. De faire le truand, c'était quelque chose qui lui paraissait évident et le plus facile. Ça devait lui faire remonter un peu l'adrénaline aussi, je pense. Je sais pas, les connaissances, sa personnalité, son côté voyou, son côté... Milou avait toujours l'impression qu'il était en colère contre la société. Et je pense que c'est ce qui faisait que ça le rendait coupable d'actes qui, à mes yeux, étaient graves. Quand on est une femme toute simple, là, et qu'on pense qu'à la vie de famille, à faire le ménage, la bouffe et les courses, c'est quand même choquant dans le sens où ça allait contrairement à l'opposé de ma manière de voir les choses et de les vivre. Nous avons eu la chance de faire deux enfants et j'avais du mal à cacher aux filles que leur père était truand, que leur père faisait de la drogue, que leur père était en prison, que leur père, comme dirait le commun des mortels, c'était pas quelqu'un de fréquentable. Elles ont toujours eu une bonne image de leur père et je ne l'ai jamais critiqué. Je n'ai jamais dit du mal de leur père devant elles. Plus tard, quand elles ont été plus grandes, c'était différent. Après, elles ont compris elles-mêmes, elles ont jugé, pas jugé. Malheureusement, une nous a quittés, elle est décédée. Elle a fait une rupture d'anévrisme le soir du jour de l'an. Milou étant en prison, ça a été très mal vécu et ça a été encore quelque chose de très difficile à vivre. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était qui était le plus difficile, si c'était cette prison ou le décès de ma fille, tout ce mélange, ça, c'était énorme. Françoise est déclarée décédée le 2 janvier 1986. Mais elle est décédée le soir du jour de l'an, dans la nuit du soir du jour de l'an. Elle avait 18 ans. Elle avait réveillonné avec son petit copain et des amis à Cannes, rupture d'anévrisme. On me téléphone et ils attendaient que j'arrive pour la débrancher et faire don d'organes. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait de manière un peu particulière, parce que quand on vous annonce la mort de votre enfant, les jambes ne vous tiennent plus, j'étais comateuse, alors ils me giflaient, les infirmiers, là, les infirmières, pour que je revienne à moi. La gifle, ça fait mal, tu la sens, alors déjà tu as la souffrance de ce que tu viens d'entendre, et en plus on te gifle. Alors encore bien plus, je me laissais glisser, j'arrivais pas à revenir à moi. Et il y a une femme qui a dit « laissez-moi, je m'en occupe ». Elle est venue en me parlant gentiment et doucement. Elle a vu que j'arrivais toujours pas à m'exprimer parce que j'arrivais pas à parler. Elle m'a dit « écoutez, on attend que vous nous donniez votre consentement pour la débrancher et pour faire un don d'organes. Dites-le avec les yeux. Faites des battements d'œil. » C'est ce que j'ai fait. Pour le débranchement, j'ai fait avec les yeux. Elle m'a dit, refaites-le. Je refais avec les yeux. Et pour les organes, pareil, j'ai fait avec les yeux. Ah, oui, il n'y avait que moi qui pouvais prendre la décision. Le père était en prison. J'en ai voulu parce que sa présence, elle aurait été d'un grand secours. J'en avais besoin. J'avais personne sur qui m'appuyer pour me consoler. Là, c'est moi qu'on droguait. Parce que j'avais besoin de piqûres, de cachets. Je dormais plus, je mangeais plus. Ah oui, j'étais toute seule là. Hein. Là, j'étais seule face à ma douleur. Hein. Milou, un jour ou l'autre, il allait sortir de prison. Il était vivant. C'était le manque de sa présence. Mais ma fille, la présence, j'allais plus la voir. Cette présence, elle me manque toujours encore aujourd'hui. Même que ça fait 30 ans. J'ignorais si Milou allait être content ou pas content que je fasse don d'organes. Je me suis pas posé la question longtemps parce que je pensais qu'il m'aurait dit « Tu fais bien ». Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit « Tu as bien fait, quoi ». Milou, malgré la souffrance qu'il a eue, tout ça et tout, c'est là où il est sorti et qu'il a travaillé, qu'il travaillait sur les quais à Marseille. Il faisait le docker. C'est un ami à moi qui l'a fait rentrer, là, parce que bon, il fallait avoir des connaissances pour rentrer. Donc, il travaillait, faisait le docker. Donc, c'était très bien, salaire, fiche de paye, chose que j'ai rarement vue dans ma vie. Mais c'était le remettre encore dans un trafic de fruits, de ce que recevaient les bateaux chinois, et au fur et à mesure, en faisant d'autres connaissances, qui trafiquaient bien entendu dans les bateaux chinois, tout ça et tout, on est reparti dans le trafic. Et il s'est fait encore arrêter pour les quais. Toutes les maisons que j'ai fait, ils sont venus le chercher, j'avais la perquisition. Dans tous les appartements, même ici. La dernière fois, c'était ici. Moi, je fais ce que j'ai à faire de mon côté. Lui, il fait ce qu'il a à faire de son côté. J'ai besoin d'aide parce qu'avec le Parkinson, il faut m'aider. Mais c'est lui qui va me préparer à manger ou j'arrive pas, hein, je tremble trop. C'est ce qui amène encore un peu de tristesse dans ma vie, mais c'est mon chemin de vie. Hein. Quand j'étais enfant, entouré de mon papa, de ma maman et de ma sœur, je le voyais tout à fait différent, mon chemin de vie. Et puis, la vie étant ce qu'elle est, tu vois que tu pars complètement à l'opposé et que tu peux rien y faire. J'aurais préféré finir ma vie autrement. On n'en parle pratiquement jamais de tout ce qui s'est passé. Je pense que si on en parlait, on ne s'entendrait plus du tout. Et là, on pourrait peut-être se disputer. Et je suis trop fatiguée pour me disputer maintenant. Je ne l'ai pas fait avant, alors je ne vais pas le faire maintenant. C'est passé. Maintenant, bon, il y a les journalistes, il y a les interviews, il y a les livres, il y a beaucoup de choses. Oui, lui, il raconte sa vie. Raconte ce côté, une bonne partie de ce côté que moi j'ignore. Et qui plaît. Là, on continue encore sur ce qui est pour moi un paradoxe. Ça plaît. Ça plaît même beaucoup. On ne parle pas trop de moi dans les... aussi bien dans les livres que dans les... On n'en parle pas. La femme, c'est... Tout au long, c'est toujours le côté... pas qu'on oublie, mais qu'on met de côté pour ne parler que de soi. Et si on parle que de soi, on ne parle pas de moi, ni vraiment des enfants. Ça fait partie de l'autre Milou, pas celui qu'on attend, qui raconte dans les livres ou dans les émissions de télé. Parce que il est arrivé à vivre cette vie qui peut paraître difficile pour beaucoup. Et lui, c'est pas qu'il dit que c'est normal. Il dit que ça a été sa vie. Mais je ne pense pas que si c'était à refaire, ils recommenceraient les mêmes erreurs. Je ne crois pas. Parce que des erreurs, il en a commis beaucoup dans son parcours. Mais on l'a beaucoup mis en hauteur, Milou, sur un piédestal. Parce qu'il dégage quelque chose, il a une manière de s'exprimer, il a une manière de faire qui est vraiment spécifique à lui. Et les gens sont respectueux envers lui. Et ça continue. Même maintenant encore, hein, ça continue. Hein.
C'était Nicole, femme de truand, une vie à l'ombre, un reportage de Marine Vlaovic réalisé par Thomas Jost. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Céline Paris. Notre stagiaire, c'est Flavie Champion. Et merci, bien sûr, à Nicole.
Et Arte présente la deuxième édition de Et maintenant, le Festival international des idées de demain. Avenir, environnement, incertitude, engagement, émotion. Et maintenant, on se rencontre et on en discute. Direct, débat et ateliers participatifs, docu-conf et plus encore. Les 21 et 22 octobre, à la Maison de la Radio et de la Musique à Paris et sur un site dédié. Infos et inscriptions, et maintenant-lefestival.fr.